À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant le jeu Scarlet Nexus. On parlera ensuite technologie avec la Chine qui est en train de tester actuellement son train ultra rapide capable d'atteindre la vitesse de 620 km/h. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le jeu Super Mario 3D World plus Bowser's Fury ou Super Mario 3D World. Alors, c'est un jeu vidéo de plateforme qui est jouable de 1 à 4 joueurs. Il a été dirigé par Shigeru Miyamoto, réalisé par Koichi Hayashida et Kenta Motokura, produit par Yoshiaki Koizumi, développé par Nintendo EAD Tokyo et One Up Studio, édité par Nintendo et avec la musique que vous entendez de Maito Yokota et Koji Kondo. Dévoilé lors de l'E3 2013, le jeu est sorti en novembre 2013 sur Wii U. Le jeu est ensuite ressorti le 30 septembre 2016 dans la collection Nintendo Selects en Europe. Le jeu suit Mario et ses amis qui tentent de sauver des créatures féeriques capturées par Bowser. Jusqu'à 4 personnages peuvent s'entraider dans des niveaux qui mélangent jouabilité 2D et 3D, et en récupérant des étoiles clashées, on débloque de nouveaux mondes de plus en plus difficiles. Un portage intitulé Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, donc duquel je vais parler aujourd'hui, est donc sorti le 12 février 2021 sur Nintendo Switch. Le jeu est classé PEGI 7 et il obtient une note de 18 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 9 sur 10 de la part de Gamekult. Donc vous souvenez-vous de Super Mario 3D World, sorti initialement sur Wii U en novembre 2013. Cet épisode en vraie fausse 3D avait su séduire des fans lassés de la formule New Super Mario Bros. Usée jusqu'à l'excès, en dépit d'un angle de caméra parfois un peu éloigné et limité, faute de liberté dans sa rotation. Après le succès commercial aussi facile qu'évident de New Super Mario Bros. U Deluxe, il y a 2 ans sur Nintendo Switch, un portage semblait s'imposer pour voir cet opus, résolument meilleur que New Super Mario Bros. U, revenir sur le devant de la scène. Mais cette fois-ci, il n'est pas seul et s'accompagne de Bowser's Fury, un jeu inédit, indépendant du titre de base, séduisant de prime abord, et dont seule la durée de vie inquiétait encore. Donc en 2019, la compilation New Super Mario Bros. U Deluxe n'avait pas trop pris de risques, en se contentant de regrouper l'un des tout premiers titres de la défunte Wii U et son stand-alone, le plus coriace New Super Luigi U. Ces ajouts exclusifs étaient pour le moins anecdotiques, et de ce fait, on s'attendait assez légitimement à ce que Super Mario 3D World finisse par revenir lui aussi sur Nintendo Switch, mais sans grosse nouveauté. Eh bien, après quelques portages qualifiables de paresseux ces dernières années, Nintendo a décidé de surprendre son monde, en incluant non pas un monde supplémentaire ou un nouveau personnage jouable, mais bel et bien un mode de jeu complet aux allures de standalone, présenté comme suffisamment dense pour justifier le passage à la caisse. En vérité, Super Mario 3D World a lui tout seul justifié déjà l'achat. Bien plus complet que New Super Mario Bros. U, cet excellent platformer demeurait jusqu'à ce jour une des meilleures exclusivités de la Wii U, et il était toujours aussi étonnant de ne pas l'avoir vu pointer le bout de son museau sur la nouvelle console hybride de Nintendo. Donc on ne dirait pas qu'on attendait un portage fidèle et efficace proposant juste un complément de gameplay comme Donkey Kong Country Tropical Freeze, mais on s'en serait presque contenté, tant cela aurait fait plaisir de retrouver ne serait-ce que l'excellent jeu d'origine. Donc je ne vais pas trop revenir sur ce qui faisait le charme de ce dernier, puisque j'en ai déjà parlé dans une autre émission il y a fort longtemps. Retenez juste que Super Mario 3D World, c'est tout simplement l'un des meilleurs épisodes de la série, porté par un level design malin au renouveau constant, une bande originale très inspirée et une durée de vie très conséquente, aidée notamment par une immense rejouabilité en solo comme en coopération. D'ailleurs, puisque je parle de jeu à plusieurs, cette nouvelle édition transfigure littéralement le jeu à plusieurs et c'est loin d'être sa seule nouveauté. Donc en effet, la coopération est désormais jouable en ligne jusqu'à 4 et elle inclut en plus les niveaux du Capitaine Toad, autrefois réservés au solo. De quoi rendre encore un peu plus convivial un titre qu'il était déjà beaucoup. Cette nouvelle édition retouche également quelque peu un gameplay qui tirait pas mal parti de la tablette de la Wii U. Les rares passages requérant l'usage du tactile feront appel aux mêmes fonctions en mode nomade, et on utilisera le gyroscope avec un pointeur associé au bouton R en mode télé, et ceux qui nous invitaient à souffler dans le micro de la tablette ont évidemment été modifiés. Donc ici, plus de grillage à hélice à faire s'élever, mais juste des plateformes mobiles automatisées, faute de pouvoir utiliser ce gimmick de toute façon un peu désuet. Enfin, le personnage joué ne peut plus être déplacé avec la croix directionnelle, les axes de mouvement semblant avoir été multipliés par rapport au jeu de 2013. Les angles de caméra demeurent par contre identiques, au point de frustrer un tout petit peu dans le très joli mode photo, importé de Super Mario Odyssey, une belle nouveauté permettant de trouver une utilité auprès de 100 tampons à collectionner. De plus, quelques autres améliorations sont à souligner. D'abord, Super Mario 3D World s'affiche désormais en résolution Full HD et tient sans souci un framerate constant de 60 images par seconde, aussi bien en mode télé qu'en portable. Il est donc toujours aussi fluide, mais surtout un petit peu plus joli, plus détaillé et moins flou qu'à l'époque. Cependant, sa fluidité se ressent bien davantage qu'en 2013. En effet, en plus de quelques petits ajustements de navigation dans les menus et la carte, le jeu est bien plus rapide et dynamique dans les déplacements du personnage joué, au point de finir chaque niveau beaucoup plus vite qu'à l'époque. En outre, un nouveau mouvement a été rajouté parmi la palette de sauts et glissades pourtant déjà très riche de Mario et de ses compagnons. Et pour couronner le tout, il sera enfin possible de passer les cinématiques, ce que le titre d'origine ne permettait pas. Vous aurez donc affaire à un platformer d'exception dans sa forme la plus agréable à jouer, car un chouïa plus ergonomique et surtout plus vivace. De quoi vous régaler pendant une quinzaine d'heures pour le finir, et au moins le triple pour le compléter à 100%. Super Mario 3D World se distinguant par un contenu post-fin particulièrement généreux et même régulièrement surprenant, et ce n'est pas tout. Passé le premier contact avec Bowser's Fury, on avait la confirmation que celui-ci se présentait initialement comme un mode de jeu bonus. Et en fait, c'est un vrai jeu à part entière, au concept tout à fait rafraîchissant et prometteur. Là où un certain Luigi Bros, déjà présent dans le titre de 2013, n'était effectivement qu'un simple mini-jeu à débloquer sur l'écran titre de ce dernier, Bowser's Fury en est clairement séparé, au point de se demander s'il n'aurait pas tout simplement pu être commercialisé à part. Il restait cependant à dissiper un certain doute du côté de sa durée de vie. Après un plat aussi copieux, jouait-il dans la cour des desserts généreux ou des digestifs vite expédiés? Les différentes previews ont permis d'apercevoir la structure de ce qui constitue bien un jeu à part. En récoltant des astres félins, Mario allait rendre petit à petit navigable le lac Saut de Chat et rendre vie à son archipel d'îles, en proie à une matière noire visqueuse répandue par un Bowser aussi gigantesque que lâche, se cachant au centre du lac la plupart du temps. En résumé, plus on débloque d'astres, plus on rallume de phares et réinstaure la lumière afin de dissiper la menace. Une formule classique en somme qui a fait ses preuves et dont on se contente tout à fait dans ce qui n'est qu'après tout qu'un complément à Super Mario 3D World. Toutefois, la vraie surprise de Bowser's Fury réside dans l'étendue de sa structure et la conception étonnamment ouverte de cette dernière. En effet, s'il utilise les bases de gameplay de l'ancien titre star de la Wii U, on découvrira assez vite qu'il lorgne davantage du côté de Super Mario Sunshine, voire de Super Mario Odyssey, dont il aurait très bien pu constituer un très bon contenu additionnel. Donc si on avait bien intégré qu'il s'agissait d'un jeu à part, on était bien loin de se douter que ce jeu serait aussi ambitieux. Alors certes, il ne faut que 3 à 4 heures pour le terminer, et plus ou moins le double pour parvenir à le compléter à 100%, mais cela reste très honorable, d'autant plus qu'on ne constate ni remplissage ni temps mort, et que l'ensemble est très dynamique. Surtout, et c'est là qu'on ne s'y attendait pas, Bowser's Fury est tout simplement le plus grand monde ouvert dans lequel Mario ait jamais évolué, vierge de toute forme de chargement, où l'intégralité de l'espace à explorer tient d'un seul bloc. Donc comprenez par là que vous évoluerez dans un vaste hub, connectant des dizaines d'îles au relief et à la fréquentation différant sensiblement les unes des autres, et que vous pourrez toutes les rallier à la nage, bien qu'il soit évidemment vivement recommandé d'utiliser votre compagnon Plessis dans cette optique. Le sympathique Plésiosaure, qui vous simplifiera grandement la navigation et sera régulièrement exploité pour conquérir de nombreux astres félins bonus, ne sera d'ailleurs pas votre seul allié dans ce monde aux allures de DLC oublié de Super Mario Odyssey. Bowser Jr. vous viendra également en aide sous forme de PNJ compagnon dont vous pourrez régler le niveau d'assistance ou qu'un second joueur pourra carrément contrôler. Donc dans ce cas, son rôle sera très limité et assez peu passionnant, un peu similaire à celui de Capi dans Super Mario Odyssey. Le titre se voulant tout public, vous pourrez donc y jouer en coopération avec un jeune enfant ou un adulte peu habitué aux jeux vidéo, ou juste quelqu'un qui veut pas trop se fouler, voilà. Côté solo, en plus des amiibo un brin trop généreux, si tant est que vous disposiez d'une grande collection, l'assistance de Bowser Jr. risque de vous gâcher un peu le plaisir d'exploration, et on suggère donc de le désactiver pour ne faire appel à lui qu'avec les contrôles gyroscopiques, je vais y arriver, lorsque cela s'imposera, comme pour faire surgir des surprises du mur, voire de filer des coups de pinceau aux ennemis alentours en cas de surnombre. Bowser Jr. ne vous aidera cependant pas lors des combats principaux contre son père, où vous vous transformerez en Giga Mario Chat. Pour ce faire, il faudra attendre que Bowser entre en mode Fury, ce qui se déclenche lorsque sa carapace noircie émerge intégralement du lac au fil des minutes de jeu, puis atteindre ensuite la Giga Cloche des Sables, sous réserve d'avoir débloqué assez d'astres félins pour la faire sonner. Cette phase de Bowser en Fury n'est ni plus ni moins qu'une version tempête de l'open world du jeu, où vous pourrez continuer d'explorer les niveaux et le lac à votre guise, mais sous la menace permanente d'un ennemi géant et parfaitement invincible. En effet, Bowser ne disparaîtra qu'en trouvant un astre ou lorsqu'il retournera de lui-même dans le lac au bout d'un certain temps, faisant disparaître la pluie et la pénombre avec lui. Notez que vous pouvez provoquer ce mode Fury avec un des trois amiibo existants à son effigie, dont l'usage individuel est heureusement tempéré par un cooldown plus que bienvenu pour ne pas en abuser. Forcément, au vu des bandes-annonces, on était en droit d'attendre pas mal de ces passages où l'on incarne ce qui est en fait un Mario Lion. Donc je n'en dirai pas trop pour préserver le suspense, mais ces séquences d'affrontement au sommet très attendues sont aussi grisantes qu'un peu molles, bien que techniquement impressionnantes. Étrangement, les phases dites de Bowser en Fury engendrent quelques chutes de framerate qui sautent vite aux yeux tant le reste est stable et solide pour un monde ouvert en 60 FPS. Enfin, si vous jouez en mode télé, car en version nomade, le titre rencontre... le titre rencontre hélas ses limitations techniques et passe à un verrouillage à 30 FPS qui déçoit un peu, après l'avoir expérimenté en docké. Dans les deux cas, d'ailleurs, le jeu se contente d'une résolution de 720p, concession sans doute obligatoire pour tenir le framerate désiré en mode télé, de quoi fatalement entraîner un aliasing assez prononcé, surtout sur les grands écrans. En dehors de ces petites faiblesses techniques et d'un véritable manque de difficulté, deux points qui ne dérangeront pas spécialement le grand public, il n'y a pas grand-chose à redire sur ce jeu dans le jeu qui s'avère plaisant à explorer, vraiment complet et au concept de gameplay plutôt original et très satisfaisant, au point de se demander si finalement il n'y aurait pas matière à le réexploiter du côté de chez Nintendo. En 2013, Super Mario 3D World avait eu la bonne idée d'inclure des stages optionnels très sympathiques et au level design original, les niveaux du Capitaine Toad. Au vu de leur popularité auprès des joueurs, il ne fut pas surprenant de retrouver cette mécanique de gameplay au service de dizaines de niveaux inédits dans un jeu complet commercialisé sous le nom de Captain Toad Treasure Tracker un an plus tard. De quoi se poser une question légitime, passer l'interrogation quant au statut de DLC de Super Mario Odyssey peut-être remis à plus tard, et si Bowser's Fury, bien qu'étant dissocié du jeu dont il accompagne le portage, constituait lui aussi une sorte de démo grandeur nature visant à promouvoir un futur jeu à part entière. Le concept est en effet très séduisant et même si des soucis techniques quelque peu préoccupants pour un projet de cette envergure ont été mis en lumière, rien ne dit qu'il serait inenvisageable de le convertir en un vrai jeu, et cette fois-ci sans avoir à le greffer au portage d'un titre riche dont il ne partage pas tout à fait les mêmes spécificités techniques. Voilà, alors pour résumer, les points positifs, on a Super Mario 3D World, un point positif à lui tout seul, toujours une belle performance de gameplay et de level design plus de 7 ans après, idéal à faire à plusieurs, de 2 à 4 joueurs, et désormais aussi bien en local qu'en ligne. Techniquement impeccable en docké comme en nomade, de petites améliorations qui fluidifient le gameplay, l'ajout du mode photo qui exploite intelligemment les tampons de Miiverse, Bowser's Fury qui est un vrai jeu et tout sauf un mini-mode vite expédié, le concept global de Bowser's Fury qui donne envie d'un jeu complet basé dessus, une durée de vie très solide pour l'ensemble et l'usage des amiibo qui est plutôt bien intégré. Pour les points négatifs, on revient sur l'usage des amiibo qui facilite quand même un peu trop souvent les choses et ce dans les deux jeux. La coop de Bowser's Fury qui est quand même assez anecdotique, Bowser's Fury qui est techniquement un peu juste, et on n'a pas beaucoup de challenge dans l'ensemble, sauf à la toute fin de Super Mario 3D World. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une musique extraite de l'OST du jeu Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. C'est Showdown with Fury Bowser, la version finale. Donc qui a été composé par Maito Yokota et Koji Kondo, et on revient juste après. We'll be right back. Donc c'était Showdown with Fury Bowser, la version finale, une musique extraite de l'OST du jeu Super Mario 3D World plus Bowser's Fury qui a été composée par Mahito Yokota et Koji Kondo. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch, on a en 5ème place Super Mario 3D World All-Stars sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place c'est Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place c'est Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 2ème place Mario Kart 8 Deluxe, toujours sur Nintendo Switch et toujours un jeu de Nintendo. Et enfin en 1ère place c'est Super Mario 3D World plus Bowser's Fury sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en 3ème place Assassin's Creed Valhalla, en 2ème place c'est Spider-Man Miles Morales, et en 1ère place Call of Duty Black Ops Cold War. Pour la Xbox Series X, on a en 3ème place Hitman 3, en 2ème place Call of Duty Black Ops Cold War, et en 1ère place Assassin's Creed Valhalla. Pour la PS4, on a en 3ème place FIFA 21, en 2ème place The Last of Us Part 2, et en 1ère place Call of Duty Black Ops Cold War. Pour la Xbox One, on a en 3ème place Cyberpunk 2077, en 2ème place FIFA 21 et en 1ère place Call of Duty Black Ops Cold War. Pour la Nintendo 3DS, on a en 3ème place Mario Kart 7, en 2ème place The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D et en 1ère place Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Select. Le dernier top 3, c'est le top 3 PC avec en 3ème place les Sims 4 l'édition standard. En 2ème place, Football Manager 2021 et en 1ère place, Microsoft Flight Simulator. On passe maintenant à la news jeux vidéo. La nouvelle licence d'action de Bandai Namco prend date sur nos PC et consoles. Scarlet Nexus sera disponible d'ici quelques mois. Donc dans Scarlet Nexus, les joueurs ont la possibilité de débuter l'aventure avec Yuito Sumeragi, une recrue énergique issue d'une prestigieuse famille politique, ou avec Kasane Randall, la mystérieuse éclaireuse dont la puissance et l'habileté ont acquis une grande notoriété parmi les BEA. Cette dernière étant d'ailleurs mise à l'honneur dans un trailer inédit. Tous deux dotés de pouvoirs psychokinétiques, ils raconteront chacun leur point de vue de l'histoire. Donc Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Steam. Les précommandes sont déjà ouvertes et le titre se propose en édition standard, Deluxe et Gardien, avec des bonus d'achat anticipés. Donc pour l'édition Deluxe en version digitale uniquement, vous aurez donc le jeu, un artbook digital, la bande-son originale, un set tenue de combat rouge, l'élément de personnalisation Les Autres et des modules SAS. L'édition Gardien exclusivement disponible sur la boutique BNEE e-commerce inclut quant à elle, le jeu, trois lithographies, un artbook, des stickers BEA, un steelbook et tous les éléments digitaux de la Deluxe édition. Le bonus de précommande inclut quant à lui un set tenue de combat rouge, l'élément de personnalisation attrape-rêve, l'élément de personnalisation vision faciale saut, ainsi que des accessoires Baki. Et comme le révèle un court trailer, le jeu a déjà droit à son adaptation en animé, chapeauté par le studio Sunrise, à qui on doit notamment City Hunter et Cowboy Bebop. La diffusion est prévue pour cet été 2021 partout dans le monde. On passe maintenant à la news technologie. Les transports terrestres devraient être beaucoup plus rapides au cours des prochaines décennies. Nous apprenions il y a quelques années que la China Railway Rolling Stock Corporation allait travailler sur un train capable de circuler à plus de 600 km à l'heure. Annoncé pour 2021, le prototype basé sur la technologie Maglev a effectué ses premières glissades à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. Donc la Chine teste actuellement son train ultra rapide, capable d'atteindre la vitesse phénoménale de 620 km/h. Le porte-parole de la Southwest Jiaotong University, qui a participé à l'élaboration de ce maglev, a indiqué que la vitesse théorique de ce train est estimée à 620 km/h. Soulignant que l'engin est très économe, il a indiqué que ses 12 tonnes pourraient être propulsées d'une seule main. Long de 21 mètres, il a été testé sur une ligne de 165 mètres sous le regard des autorités et de la Société des chemins de fer chinois. Les retours seraient impressionnants. Pour atteindre cette vitesse, le train ne roule pas mais glisse au-dessus des rails grâce au principe de la sustentation magnétique. Cependant, ce maglev se rapproche plutôt du projet Hyperloop que des modèles à sustentation magnétique exploités jusqu'à présent. Il se déplace grâce à un système d'aimant accompagné de la technologie HTS, donc supraconductrice à haute température. Ainsi, il est tout simplement dépourvu du tube vide d'air qui permet d'atteindre des vitesses de plus de 1000 km à l'heure. Il est à noter que plusieurs trains de ce type existent déjà. En Chine, une ligne régulière est en service depuis l'année 2004. Celle-ci permet de traverser les 30 km qui séparent l'aéroport de Shanghai au centre-ville à une vitesse de pointe de 431 km/h. Voilà, on va maintenant pouvoir finir l'émission avec les sorties de la semaine. On a eu deux sorties aujourd'hui, vendredi 19 mars, avec Root Film sur PC, Nintendo Switch et PS4 et Sizable sur PC. On aura ensuite d'autres sorties pour mardi 23 mars avec Magic Legends sur PC, PS4 et Xbox One, Arkham Horror Mother's Embrace sur PC, Nintendo Switch et PS4, Story of Seasons Pioneers of Olivetown qui sortira sur Nintendo Switch, Chronicle of Innsmouth Mountains of Madness sur PC, Machinica Museum sur PC, Touch sur PC, Nintendo Switch et PS4, Inspector Waffles sur PC, Rolled Out sur PC et Sanity of Morris sur PC, PS4 et Xbox One. Pour mercredi 24 mars, on aura deux sorties, Paradise Lost qui sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One et Coach Monsters sur PC. Et les dernières sorties de la semaine, ça sera pour jeudi 25 mars avec Immortals Phoenix Rising, Mythe de l'Empire Céleste qui sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Dandy Ace sur PC, Nintendo Switch et PS4, Black Legend sur PC, PS5 et Xbox Series, El Hijo, A Wild West Tale sur PC, Nintendo Switch et PS4, Crash Bandicoot On The Run sur iOS et Android, et enfin on aura Cléa 2 qui sortira sur PC et Nintendo Switch.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble, que vous retrouverez lundi prochain comme d'habitude de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.